Allô, Daniel? Oui, je parle pas fort, Daniel, parce que j'ai une révélation à te faire, Daniel. C'est un gros mot, Daniel, je te le dis. Je suis femme de chef d'entreprise. Chut. Bon, Daniel, moi, je suis très embêtée. Parce que j'ai mis dans la voiture de mon mari, dans le vide-poche, une brosse à dents, du dentifrice, une petite bouteille d'eau, enfin, le nécessaire de survie. Ben, tu sais pas ce qui se passe, Mermé. Tous les soirs, mon mari rentre à la maison. J'attends. Mais il me le rend tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Mermé, quand même? Ben, faut dire aussi que l'année dernière, il a racheté, avec des collègues, une boîte américaine. Ouais, des fonds de pension. Alors, ça allait pas très fort. Et puis maintenant, ça va encore pas très fort parce que, un autre gros mot, il y a la crise. Non! Mais bon, comme les gens ils disent tous que les patrons, c'est des salauds, il faut pas dire, même les tout petits, même les gens qui essaient de s'en sortir, il faut pas en parler. Chut. Mais quand même, Daniel, moi j'aimerais bien qu'il le garde 2-3 jours, ça me ferait des vacances quand même.
Oui, bonjour à tous. Voilà, avec tout ce qui se passe, continental et tout ça, je voudrais vous lire quelques vers. Les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. L'État comprime et la loi triche. Le droit du pauvre est un mot creux. Eh bien, ces quelques vers sont issus de l'International. C'est une chanson qui est plus que jamais d'actualité. Plus que jamais. Allez, salut!
Bonjour à tous les AMG, ici un reportable depuis la rue de l'Université, donc face à l'Assemblée nationale où il y a plus de CRS que de manifestants, il y a beaucoup de gaziers et d'électriciens qui sont présents, des forces de l'ordre en puissance et des flics en civil partout. Donc électriciens et gaziers qui sont motivés et rassemblés pour défendre le service public et l'emploi dans le service public, pour réclamer une meilleure répartition des bénéfices énormes qui ont été faits cette année par les entreprises Gaz de France, Suez, EDF, on ne sait même plus trop comment il faut appeler tout ça, et surtout essayer de remettre sur pied un service public efficace et au service du public, et non pas au service d'une poignée de nantis qui se gavent et qui se servent avec des augmentations comme la dernière en date, du vice-président du groupe GDF Suez, M. Cirelli, qui s'est vu augmenter de 183%. J'ai bien dit 183%, alors qu'on refuse une augmentation de 5% à l'ensemble des salariés du groupe. Voilà, ben on est très nombreux, on est tous très motivés pour faire en sorte que le service public reste un vrai service public. A ciao.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui et c'est à vomir, quoi. À vomir, vraiment. C'est vraiment, non, il n'y a pas d'autre mot, et je suis même, je trouve formidable cette dame, son courage, magnifique, non, vraiment, comme quoi, bravo, Delphine de Rennes, au revoir.
Salut à toute l'équipe, d'abord si j'y suis, moi je suis effaré d'entendre un reportage comme ça, franchement, les gens comme ça qui font du fric sur des ouvriers qui travaillent tous les jours, qui se lèvent, qui bougent et qui bossent, c'est pas des feignants. Moi, je dis qu'il faut que tous les ouvriers de ce monde s'unissent et il faut les bouffer, ces gens. Il faut les bouffer tout cru avant que nous, on se fasse bouffer. On est en train de se faire bouffer. Il faut changer tout ça. Il faut que tous les ouvriers de ce monde s'unissent et il faut aller de l'avant. Il ne faut pas abandonner. Il faut les pendre, ces gens. Il n'y a que ça. Ils sont sans pitié, ils sont sans scrupules. Ce sont des gens qui n'ont aucune morale sociale. Et ils veulent faire qu'une chose, c'est du fric et du fric sur le dos des salariés, sur le dos des familles qui sont au chômage après, qui n'ont plus de pognon pour payer leurs dettes et qui bossent. Ces gens, ils ne sont pas feignants, ils se lèvent tous les jours. Hein. Ce monde doit changer. Il faut que tous les ouvriers de ce monde s'unissent. Je le dis, je me répète peut-être, mais c'est grave. Franchement, il faut y arrêter tout ça. Parce que ça, il faut que ça se termine. C'est pas possible. C'était Yves, chauffeur routier de Lyon. Merci à toute l'équipe, à plus. Ciao.
Salut, Mermé. Bon, souvent, tes émissions, souvent tu me fais gerber quand même. Faut bien dire ce qui est, je vote à droite. seule émission d'aujourd'hui m'a sincèrement ému. Alors j'ai beau être un connard de droite, et ben, je fais partie de ceux qui ont un cœur. Et j'espère sincèrement que ces femmes-là continuent à travailler. Et je leur tire mon chapeau. Marie-Hélène est une femme très courageuse et je doute pas que les autres le sont aussi. Quoi. Vraiment un grand coup de chapeau pour cette émission. Merci. Ciao.
Eh oui, eh ben, même depuis Boston, où je suis, je l'aperçois, le drapeau rouge qui flotte sur le répondeur de la base, j'y suis, le drapeau rouge et la colère qui gronde et l'émotion aussi, suite au reportage d'hier sur les ouvrières licenciées venues tenter de poser des questions à Bernard Arnault lors de l'assemblée annuel des actionnaires de LVMH. C'est un reportage d'il y a 2 ans, c'est-à-dire qui date d'avant la crise d'aujourd'hui, cette crise qui remet la lutte sociale au premier plan et qui nous replace dans l'histoire des luttes sociales dont nous ne savons pas grand-chose. Nous, pas grand-chose, et nos amis états-uniens, ici, autour de Boston, même à Boston, ne savent pas grand-chose non plus. Hier, on a passé la journée dans une petite ville, très désolée, une ancienne ville de filature, pleine de friches industrielles, où eut lieu, en 1912, une grève historique, celle du pain et des roses, Bread and Roses Strike. Et c'est un grand moment de l'histoire sociale des États-Unis, sauf que cette page héroïque, qui a valu des améliorations des conditions de travail, entre autres, pour tous, eh bien, est passée sous silence très 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 longtemps, jusqu'à il y a 10 ans ou 20 ans tout au plus. Il a fallu le courage, la combativité des historiens, de quelques historiens, de quelques journalistes, pour que cette histoire revienne et rentre à nouveau dans les mémoires. C'est bien timide, mais enfin, cette histoire maintenant existe à travers un petit musée qu'on peut visiter à Lawrence, donc non loin de Boston, et surtout rencontrer le conservateur ou l'animateur de ce musée. Alors aujourd'hui, dans la base, si j'y suis, la question, la vieille question de la sécurité ou de la liberté. Sécurité ou liberté, que choisir? C'est la table de ménage qui rentre. Sécurité ou liberté, que choisir? Évidemment, c'est un thème tout à fait classique. L'État pour fonction d'assurer la sécurité, surtout des plus vulnérables. Mais que fait-on, que ne dit-on pas au nom de cette sécurité? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, la rediffusion du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe de la base, si j'y suis. Nouveau rendez-vous au repère du bistrot Roguin à l'Alleud, en Ille-et-Vilaine. Ce soir, vendredi 24 avril à 19h, au programme, râler, contester, critiquer, voire gueuler, en rigolant quand même. Après l'apéro, auberge espagnole. Alors apportez votre casse-croûte et plus pour partager. Madeleine et Jean-Yves vous attendent et vous accueillent ce soir, vendredi 24 avril, à 19h, au Roguin, à l'Alleud. À tout à l'heure.
Café Notre Monde, 18h, Robert de Labas, si j'y suis, aux Estérés du Lac, à Montauroux. Ciao, vive, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Agnès de Roanne dans la Loire pour vous dire que ce week-end, nous allons vivre avec les sans-papiers à Roanne. Dès ce soir à 19h à la médiathèque, nous aurons une conférence de Lilian Mathieu sur les luttes en faveur des sans-papiers. Demain à 15h, tout le monde a rendez-vous devant l'hôtel de ville, chanteurs, danseurs, musiciens, pour une parade avec des hommes sandwich, des cartons, avec des slogans pour les sans-papiers. À 17h, rendez-vous à la médiathèque où une exposition avec les sans-papiers est mise en place pour un mois. Il y aura des lectures de témoignages, des spectacles. On vous attend nombreux. C'est donc à Roanne, dans la Loire, pas très loin de Lyon et de Saint-Étienne. On compte sur vous à ce soir et à demain. Au revoir.
Vivement la promulgation d'une loi sur formation et appartenance à bandes organisées. pour que la justice puisse enfin se saisir des différentes bandes qui mettent notre pays à feu et à sang depuis 2 ans. Je veux parler entre autres de la bande élyséenne, de celle du MEDEF, du CAC 40 et des banquiers voyous qui détruisent un peu plus chaque jour nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, notre justice, notre poste, les plus beaux fleurons de nos entreprises, mettant au passage des milliers de travailleurs au chômage et les précipitant dans la précarité et la misère. Et cela en toute impunité. Le scandale de la violence des agissements de ces bandes mafieuses n'a que trop duré. Grâce à cette nouvelle loi, nous allons de nouveau pouvoir retrouver l'ordre et la sécurité républicaine qui avaient déserté nos contrées. Je voudrais ajouter que si je m'autorise cette diatribe, c'est que j'estime que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. N'est-ce pas, Daniel ? Voilà, au revoir. Je suis Bernard d'Argelès, Haute-Pyrénées.
Bonjour, c'est Michel de Houille dans les Yvelines. Tout d'abord, je remercie l'équipe de là-bas pour cet espace de non-alignement quotidien. Alors, je voulais parler chiffres. Depuis des années, on veut tout chiffrer, comme si une information chiffrée était par nature plus fiable, et même parfois, on considère que c'est neutre. Mais les chiffres, en fait, on devrait dire les nombres, ne sont qu'un moyen d'expression comme les autres. Ils ne sont ni plus ni moins objectifs. Ils sont un moyen d'expression approprié ou pas, c'est tout. Bon, on connaît bien des exemples de manipulation avec des chiffres faux. Mais même des chiffres justes peuvent servir à mentir. Un petit exemple récent. Des évêques du pouvoir ont répété partout qu'il n'y avait pas lieu de s'offusquer des revenus des patrons, puisqu'en moyenne, il est de 4400 euros par mois. Bon, en entendant ça, on se dit, bah, c'est confortable, mais pas scandaleux. C'était probablement le but recherché. Mais en supposant que ce chiffre soit arithmétiquement exact, il y a au moins deux grandes manipulations. D'une part, cette moyenne ne concerne que les chefs d'entreprise. On oublie de compter les revenus de ces patrons invisibles que sont les grands actionnaires. En fait, ce sont eux les décideurs en dernier ressort, donc les vrais patrons. Bon, il est probable qu'en incluant leurs revenus, cette moyenne serait quand même sensiblement augmentée. D'autre part, cette moyenne mélange des chefs de grandes entreprises internationales avec des chefs de très petites entreprises, c'est-à-dire des gens qui ramassent des centaines de milliers, voire des millions d'euros chaque mois, avec d'autres qui sont souvent proches du SMIC. Avec le même genre de démarche, on peut dire que chaque être humain a en moyenne un ovaire et un testicule. Vous pouvez vérifier, c'est arithmétiquement exact, mais évidemment, ça n'a aucun sens concret. Donc, quand un chiffre structure l'alimentation, il faut toujours se demander ce qu'il représente et comment il a été obtenu. Voilà.
It's time to get up. The time is 7 o'clock.
J'arrive dans le métro. Devant moi, première chose, une caméra. C'est la journée qui commence.
Vous êtes à nouveau dans le système principal.
J'arrive au portillon, je sors mon pass Navigo, la RATP, et tous mes voyages sont enregistrés et tracés.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Agnomari annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
Je continue ma journée, j'amène des enfants d'amis à l'école.
Là, on arrive, qu'est-ce que c'est, cet appareil ?
C'est pour réserver mon repas.
Tu dois réserver ton repas. Alors c'est une grosse machine, assez électronique, et puis il y a un petit carré argenté. Qu'est-ce que c'est ça ?
Bah en fait, on doit poser notre doigt, puis notre empreinte, elle est inscrite là-dedans, puis c'est comme ça qu'on réserve notre repas.
C'est un fantastique outil pour les dictateurs. Alors nous ne sommes pas actuellement en dictature, mais un accident est toujours possible.
Salut, c'est la Bassie, j'y suis, Daniel Mermet avec Sylvain Savolainen. Dieu te regarde même quand tu es au cabinet.
Flight number 2, arriving from New York.
Je continue ma journée, je décide de promener mon chien et d'aller faire un tour à la montagne. Je passe la frontière suisse et je suis arrêté par un douanier qui veut savoir si mon chien est porteur de puce. C'est obligatoire depuis 2007.
Oui, bonjour monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci. Vous étiez en France?
Oui.
D'accord. Vous avez fait des achats?
Non, 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 rien acheté.
D'accord. Mais vous avez un chien?
Oui.
Un chien?
C'est, oui.
Vous avez son passeport?
Voilà.
Voilà, merci. Passeport pour animal, d'accord. Page 2. Description de l'animal. Laika.
Laika.
Né 1993, d'accord. Il a le puce?
Ben, j'espère que mon chien n'a pas de puce, non.
Non, mais le puce, micro-puce, le microchip, sa puce électronique, c'est pas animal.
Alors ça, je... Oui, il a.
D'accord, mais écoutez, alors sortez le chien et on regarde, s'il vous plaît. Alors ça, c'est... Encore une fois, tu t'appelles comment? On va trouver ça. Alors, Laika. Écoute, Laika, on va vite regarder. On allume.
Appareil rectangulaire, plastique. Il y a une empreinte digitale sur un chien et sur un chat. On appuie, c'est ça?
Oui, et ça s'appelle Isomax 3.
Et puis un petit écran LCD d'ordinateur, c'est en anglais, hein? Ready.
Oui, oui. Nous, Lituaniens et Suisses, on est très polyglottes. Et après. Alors, j'ai allumé, pressé là sur l'empreinte. Voilà, ready. Vous tournez là.
Ok, on passe sur le cou.
Alors, nous verrons.
Vous passez à la hauteur de la tête, du cou.
Attendez. Ah bon, ça, je re-éteins. Ready. Ah voilà. Maintenant, on a le numéro. Alors, tu es gentil, Laika. Alors, le numéro, c'est 75 60 98 10 10 12 941. Sachou, c'est le chien avec le passeport pour les chiens. Alors, pour moi, c'est bon. Vous pouvez aller.
Super, super. Donc, ce que je comprends bien, il faut dorénavant que les chiens et les chats aient des puces. Puces, micro-puces.
C'est juste. Ah, chaque chien, il doit avoir ce passeport pour animaux de compagnie. Pour être sûr que ce passeport corresponde avec l'animal, je ne sais pas qui, mais un vétérinaire, normalement, il a implanté ce micropuce électronique dans le corps du chien. Et l'État suisse m'a donné cet appareil qui me permet de lire le numéro qui figure aussi dans le passeport du chien. Et après, on est sûr, on parle du même chien.
Et quelle est la raison, le besoin pour la puce? Parce que le chien a déjà son carnet de vaccination, il a son tatouage, il a son passeport. Pourquoi maintenant la puce supplémentaire comme obligation?
C'est le moyen le plus fiable pour l'identification absolue.
Et entre le passeport, le carnet de vaccination, le tatouage, avant, la sécurité n'était pas suffisante ou assurée ou...
Je ne peux pas le dire avec certitude. Je suppose par le fait qu'il y a maintenant ces puces, le tatouage n'était pas suffisant. Ou avec cette nouvelle technique, c'est plus fiable et plus rapide. Parce que vous avez vu, avec mon appareil, on peut lire rapidement le numéro. C'est efficace et c'est propre.
Et donc, on peut dire, enfin, si je comprends bien, que si le chien n'a pas de puce, ce qui semblerait logique pour un chien, ou qu'il a perdu son pucelage, il est hors la loi.
Juste, à ce moment-là, soit je le refoule, j'ai aussi la possibilité de contacter mon vétérinaire, ou je pourrais être gentil, je vous laisse partir, mais je fais des photocopies de votre passeport, votre adresse, et après, vous êtes contacté par le vétérinaire pour régulariser le cas. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vécu ça. Jusqu'à maintenant, les histoires terminées, toujours bien.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'inoculer une puce à leur animal?
Non, jusqu'à maintenant pas, parce que les gens, ils voyagent et probablement c'est aussi dans l'intérêt du chien d'être identifiable. Et il y a aussi l'Union européenne qui exige certaines choses. Et celui qui voyage, malheureusement, il doit s'adapter à la loi du pays de destination. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait uniquement des bonnes expériences. Les voyageurs avec chien ou chat sont en principe des gens bien éduqués et ils font tout pour contenter le pays de départ, ça veut dire la Suisse, et le pays de destination.
Vous avez souri, mais si, on vous observe.
Vous croyez que vous êtes tranquille dans votre voiture à écouter France Inter chez vous avec votre petit transistor et tout. Ça fait de bien belles lurettes que tout ça est équipé de caméras. On vous voit, mais bien sûr en permanence. Et c'est pas entièrement vrai, mais c'est pas entièrement faux. Et on nous sommes soupçonnés. Ce développement formidable quand même, actuellement, du contrôle par, grâce à l'informatique, grâce à l'électronique, évidemment, ça entraîne une situation de soupçon. Nous sommes tous soupçonnés. Et bien sûr, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre, comme on vous dit toujours. Mais c'est cette situation, ce climat de soupçon qui gagne un peu plus tous les jours. Évidemment que c'est les chiens et les chats aujourd'hui, mais pourquoi pas demain votre épouse, hein? Vous mettez une puce sur votre épouse et vous savez où elle est, vous pouvez la surveiller, vous avez un écran, etc. Ou bien lycée de Versailles. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Depuis tout temps, le pouvoir a eu besoin de nous surveiller. Pour dominer, il faut contrôler, et pour contrôler, il faut surveiller. C'est tout simple, et ça s'est toujours fait. Les systèmes de délation dans les pays totalitaires, souvenez-vous, les rapports de la Stasi, par exemple, qui montraient comment la délation était généralisée dans un pays comme l'Allemagne de l'Est, mais c'était le cas en Russie, c'était le cas dans notre bel hexagone pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais que fait-on quand on est dans des sociétés ouvertes, libres, démocratiques, comme les nôtres? Il faut trouver des méthodes, des techniques adaptées à cette surveillance, et surtout que peu à peu les citoyens acceptent cette surveillance. C'est le souriez, vous êtes filmé. C'est toujours pour votre bien, bien évidemment, qu'on fait tout ça. Que croyez-vous? C'est pour votre bien, c'est pour vous protéger, pour retrouver les petits-enfants perdus. Vous vous rendez compte, cette petite fille que toute la France a cherchée, si elle avait eu une puce? Non, on l'aurait retrouvée tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que c'est fait, c'est pas du tout. Et tout ce qui va permettre la domination, tout ce qui va perpétuer la domination est toujours fait pour notre bien d'abord. C'est avec cet esprit et cet état d'esprit que nous continuons cette balade dans le cauchemar de l'insécurité. Mais n'oubliez pas, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre.
Vous êtes à nouveau dans le système principal.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent. Violence et la haine, alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or que d'autres ont reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, 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 living room. C'est pas du plan, c'est le living, living. Des éléphants, des gnous, des girafes, des orangs-outans dans nos réserves sous surveillance. Et qu'on n'aille pas s'égarer en troupeau ou bien tout seul isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un os théopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis dans la cuisine.
Bonjour. J'aimerais acheter un petit objet. Est-ce que je peux voir ce que vous avez en rayon?
Mais bien sûr, monsieur.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Un sextoys. C'est un objet qui marche avec une pile. Et celui-ci, il a des petits piquants comme ça, mais très très doux, qui font juste des sensations dans le vagin. Et c'est très agréable.
Et...
Là, il est un petit peu gros, vous avez des plus petits, vous avez des recourbés qui vont chercher le point G. Voilà, et puis vous avez des coquerines. Les coquerines vibrants ou les coquerines comme ça qui servent juste la base du sexe ou le sexe et les testicules.
Alors ça
c'est... retient un petit peu l'érection et puis ça vibre sur le clitoris et c'est très agréable.
Par contre, il y a des piles.
Oui, il y a des piles.
Je préférais quelque chose de mécanique.
Alors, mécanique, ça ce sont des cravaches ou des fouets en cuir. Les vrais, avec des petits... Un petit tambour comme ça qui frappe bien sur les fesses, éventuellement. Vous voulez l'essayer?
C'est moi qui l'essaye sur vous, c'est vous qui l'essayez sur moi?
Je l'essaye sur vous.
Bon, bah, pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur?
Par carte.
Ok.
C'était Sylvain dans le magasin Mea Culpa. Voilà, et tout, vous avez entendu, je ne sais ce que vous avez entendu, mais le mot important là-dedans, c'était carte bleue, bien évidemment. C'était carte bleue qui était très important. Une fois cet achat fait avec une carte bleue, eh bien la marque Mea Culpa Sex Shop est indélébile à vie. C'est-à-dire que voilà, maintenant, Sylvain, on sait où il a acheté, ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire que ses descendants, dans plusieurs siècles, sauront qu'il y a eu un ancêtre qui a acheté une cravache ce jour-là chez Mea Culpa. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Quelle tête ils feront le jour où ils s'apercevront de ça, les descendants de Sylvain. Mais qu'en pensent les employés du sex shop Mea Culpa? Qu'en pense, par exemple, le patron de tout ça, de cette surveillance informatique qui se généralise?
Je vois que vous avez un chien.
Oui.
Est-ce qu'il a une puce?
Mon chien a une puce, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que on devrait y penser pour nos chers chérubins.
Comment?
Les chérubins, les petits, les enfants. Parce que ça serait une protection et ça serait, à mon avis, une idée que les gouvernements devraient penser pour les enfants qui naissent jusqu'à un certain âge à définir probablement dans chaque pays. Mais ça serait une garantie pour moi... une garantie un peu plus sûre de savoir où sont leurs enfants. Parce que déjà, on leur donne des téléphones, on leur donne des bracelets qu'on met au bras, il me semble. Si on leur mettait une puce directement à la naissance, eh bien, il y aurait, à mon avis, plus de facilité de retrouver des enfants. Pourquoi on le met pour les chiens ou pour les chats? Étant donné que si on nous vole notre chien, quel que soit le prix du chien d'ailleurs, on s'en fout. Mais pourquoi pas le faire pour nos enfants qui est quand même notre héritage futur? Donc ça serait peut-être une idée à suivre et surtout à imaginer.
Ben oui, il y a toujours la bonne raison, le bon prétexte pour notre bien, bien évidemment. La surveillance, le business de la peur se développe par vagues à chaque fois qu'il y a un grand traumatisme comme les attentats de 1995 à Paris, oui, bien évidemment, 2001. 2001, le 11 septembre 2001 a déchaîné le marché de la sécurité dans le monde entier, enfin surtout dans le nôtre, dans le monde riche, et avec une destruction des libertés acquises. Sécurité et liberté, c'est un conflit. Et je rappelle la phrase attribuée à Thomas Jefferson, qui disait: si vous êtes prêt à sacrifier un peu de liberté pour vous sentir en sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Évidemment, le 11 septembre a été une aubaine, a constitué une aubaine pour ce marché, pour ce business et pour cette tendance lourde, très très lourde de la domination que de contrôler la société intimement dans son intimité. Je me souviens, par exemple, qu'au temps de Mobutu, au Zaïre, qui était le Zaïre à Kinshasa, la façon dont Mobutu avait de contrôler sa population et la contestation et son opposition, c'était les escadrons de la mort, c'est-à-dire qu'ils faisaient exécuter quelques personnes comme ça dans un coin de la ville, nuitamment, dans des conditions particulièrement atroces, et ça suffisait pour que toutes les têtes rentrent dans les épaules, pour que la peur s'installe. Et ensuite, il avait surgissait soudain, à la sortie d'une boîte ou d'un endroit quelconque, des hommes avec des passe-montagnes, qui faisaient très très peur, qui entretenaient en permanence cette peur. Le pouvoir doit faire peur. Faire peur, c'est le moyen du pouvoir. Et ensuite, on lutte contre cette peur par la sécurité pour votre bien. Ce genre d'idées, à peu près, c'est ce que vous trouvez dans le bouquin de Claude-Marie Vadrault, aux éditions du Seuil, La Grande Surveillance. Claude-Marie Vadrault est un journaliste, et il fait un boulot formidable d'accumulation, véritablement, d'informations, et là on le retrouve à la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. Ce qui est très intéressant, c'est que la station de métro Strasbourg-Saint-Denis est truffée de caméras, de vidéosurveillance, et que ça n'a en aucun cas fait baisser la délinquance, mais qu'en revanche la station de métro Barbès n'est pas équipée de caméras de vidéosurveillance, et ça n'a, en l'absence de caméras, n'a absolument pas vu augmenter la délinquance. C'est-à-dire en gros, voilà, ça sert à rien. Mais on va quand même multiplier par 3 ces équipements publics. On retrouve donc Claude-Marie Vadrault.
Alors, parmi la panoplie de technologies de traçabilité, de traçage, il y a la puce. Est-ce que des humains se sont vus inoculer une puce sous la peau au nom de la sécurité pour des raisons de surveillance, de traçabilité?
Oui, notamment. Et ça n'est pas exhaustif. Aux États-Unis, il concerne un certain nombre de patients dans les hôpitaux. Il concerne également, d'après ce que je sais, des SDF à qui on a mis cette puce pour mieux les identifier quand on les retrouve. Ça concerne également les prisonniers de Guantanamo. Là, ça aurait été fait à leur insu. Ça concerne également, sous le régime du volontariat, des employés de banque en Australie. Et ça concerne enfin des clubs chics comme celui de Barcelone où, eh bien, pour rentrer, on présente son coude avec la puce incorporée sous la peau pour pouvoir rentrer. On est immédiatement identifié.
Et en France, est-ce que le projet de puce inoculée sous la peau d'être humain a été envisagé?
C'est tout à fait envisageable et envisagé. Notre ministre de l'Intérieur, qui est devenu depuis président, a envoyé une mission de hauts fonctionnaires aux États-Unis pour étudier le système. Il s'agissait d'abord de vérifier la fiabilité et la faisabilité technique de cette puce placée sous la peau, et ensuite, parce que c'est ça qui est important, de mesurer le degré d'acceptabilité d'une population de cette carte d'identité portée sur le corps, d'avoir son corps transformé en carte d'identité.
J'appelle ça le bocal. Pas de branchement téléphonique ou électrique, l'autarcie totale. Déconnecté du monde. Pas le moindre fil pour trimballer virus ou mouchard. Ça ne laisse que les transmetteurs. C'est un jeu d'enfant de nettoyer les fréquences.
Nettoyeur de fréquences pour transmetteurs ?
Le gouvernement s'est mis à coucher avec toute l'industrie des télécommunications et ils ont tout affecté. Ils pénètrent dans ton compte en banque, tes données informatiques, tes emails, ils mettent les téléphones sur écoute.
Ma femme me le serine depuis des années.
La moindre fréquence, le moindre fil. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Le meilleur des mondes, il paraît. Enfin, ça devrait l'être.
Je m'assieds devant mon ordinateur. Pas d'accès si je ne donne pas mon nom d'utilisateur et un mot de passe. Ma session s'ouvre, sont enregistrées toutes mes manipulations et utilisations Internet. Je vais sur un site d'achat de livres. Ça fait des mois que je n'ai pas consulté le site, mais à peine la page d'accueil s'ouvre, le serveur du site a reconnu mon adresse, tous mes achats et mes différentes cartes de crédit sont enregistrées. Je vais sur un journal en ligne, pareil, Le journal me reconnaît et sait exactement tous les articles que j'ai consultés et toutes les recherches que j'ai effectuées.
Si je tape une recherche sur un moteur de recherche, Google par exemple, est-ce que mes recherches sont enregistrées ?
Bien sûr, toutes les recherches que vous faites sur un moteur de recherche sont enregistrées et conservées pratiquement indéfiniment par les propriétaires des serveurs. Alors si on en croit les internautes, Internet, dont je me sers comme tout le monde, serait un lieu où il n'y a que de chic copains dans la convivialité la plus extraordinaire. Non, c'est d'abord un moyen de gagner de l'argent, ce qui n'est pas forcément scandaleux, mais c'est aussi un moyen de dresser des profils psychologiques, c'est un moyen de repérer des gens. Internet n'est pas neutre, Internet a de la mémoire.
Alors par exemple, qu'est-ce qui est gardé lorsque je fais une recherche avec mon ordinateur ? Quelles informations sont gardées par le moteur de recherche ?
Votre adresse d'ordinateur et le type et le temps de la recherche sont conservés par Google ou par un autre.
Et les mots-clés aussi, ce que j'ai tapé est lié à l'adresse de mon ordinateur.
Absolument, tous les mots-clés, et puis on établira un jour votre profil de par les recherches que vous pouvez établir. Plus les perversions de certains sites, pendant la campagne électorale, j'ai été amené à consulter le site de l'UMP, puisque je suivais la campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Je voulais m'assurer qu'un débat avait bien eu lieu alors que je n'avais pas pu m'y rendre. Bon, j'ai consulté une petite vidéo et le lendemain, j'ai reçu un message internet du site en question me vantant l'UMP. Par conséquent, quelqu'un ou quelque chose avait noté mon adresse de façon à pouvoir m'envoyer un message. Ça a été dénoncé par la Commission nationale informatique et liberté. Il semble que ça ait cessé ensuite, mais la tentation existe toujours de repérer tous les gens qui consultent un site, tous les gens qui consultent un moteur de recherche.
Pourtant, Internet, c'est aussi un droit, en tout cas, à l'information, un accès à l'information avec les moteurs de recherche, avec les sites de la BBC ou les moyens de communication. Les Chinois, les Birmans pourraient utiliser, utilisent, on l'a beaucoup entendu dernièrement, c'était l'un des moyens de communication de la résistance birmane. Est-ce que ces fournisseurs collaborent ou au contraire sont des remparts aux dictateurs, aux dictatures?
Est-ce... Non, les grands fournisseurs comme Google, comme Yahoo et comme d'autres ont cédé aux autorités chinoises en restreignant l'accès à un certain nombre d'informations, de sites et de blogs. C'est pareil en Birmanie, c'est pareil en Biélorussie. Ces gens qui vendent du temps d'Internet pour pouvoir continuer à exister se soumettent aux obligations des dictatures ou des pouvoirs forts.
Je prends maintenant la voiture du travail. Un GPS rapporte à mon patron ou dénonce en temps réel tous mes faits et gestes.
Voilà, là on est parti. On peut être localisé.
Absolument. Oui, tout est... Même sans partir, on aurait pu être localisé. Le véhicule est tout le temps localisé.
Et vous avez une entreprise, votre slogan, c'est « Vous localiser, telle est notre mission ».
Absolument. Bon, l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre aussi bien aux sociétés et aux particuliers qui ont besoin de localisation, de leur fournir des systèmes, de façon à pouvoir savoir, effectivement, où sont leurs véhicules, mais aussi où sont leurs personnes, ou leur personnel, d'ailleurs.
Et alors, au niveau technique, technologique, comment ça fonctionne ?
Ben, le principe, en fait, c'est que il y a un boîtier. Si c'est pour la voiture, c'est un boîtier dédié à la voiture, qu'on dissimule. Si c'est pour la personne, c'est un boîtier qu'elle porte sur elle. Et en fait, la spécificité, c'est que ces boîtiers, ils ont à l'intérieur un module GPS qui leur permet de savoir où est le véhicule ou la personne, et un module GSM pour la transmission des données.
C'est-à-dire que je reçois les données sur mon téléphone portable ou par Internet ?
Oui, alors par défaut, effectivement, ces données sont transmises sur Internet, sur ce qu'on appelle un serveur. Et en fait, il faut se connecter pour visualiser sur une carte les positions.
Voilà. Voilà, vous avez compris, hein. Je vous l'avais bien dit. Ou plutôt ma mère me l'avait bien dit. Dieu te regarde même quand t'es au cabinet. Là, ça y est, on y est. Vous êtes chef d'entreprise, terminez ces histoires de, vous voyez, vos livreurs qui font des petites pauses, des petits casse-croûtes dans les bouts. Terminez tout ça. Vous pouvez savoir où ils sont à tout moment. Alors, en attendant la puce, vous voyez, vous embauchez quelqu'un, clac, on lui met une puce. Mais en attendant, vous le mettez un boîtier dans son sac à main, dans son attaché de caisse, ou dans la voiture, et vous savez où il est. Je caricature, bien évidemment, et Thierry Marc Beaurevoix, le patron de Espace Mobilité, vous donne des précisions.
Vous me l'avez dit, le boîtier est dissimulé, parce que là, on est en voiture. En tout cas, moi, je vois rien, il n'y a rien qui m'indique que la voiture peut être localisable.
Oui. Bah, d'une part, parce qu'effectivement, ce boîtier, au-delà de la localisation, peut avoir une utilité, ne serait-ce que par rapport au vol. Donc concrètement, l'idée, c'est de, si voleur il y a, qu'il ne sache pas où est le boîtier. C'est aussi simple que ça.
Alors, moi, je suis employé, mais là, pour le plaisir, je vais prendre le rôle d'un patron. Si je veux donc localiser un véhicule, un collaborateur, ma femme, ma grand-mère, son chien et sa laisse, c'est possible.
Oui, c'est possible, sauf que pour le coup, si on prend spécifiquement une entreprise, il y a un process, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles il faut se conformer. Je pense notamment à la CNIL, hein, où en clair, l'employeur a obligation de déclarer ce dispositif à la CNIL et il a obligation de prévenir le salarié. Donc ça peut pas se faire, entre guillemets, à l'insu du salarié. Ça, c'est pas possible. Le risque, potentiellement, c'est, par exemple, une action prud'homme, voire plus. Hein, on est limite pénal. Moi, je connais pas, j'ai pas d'exemple de pénal, mais il me semble que ça peut rentrer dans le cadre du pénal, ouais. Maintenant, pour le coup, un particulier qui veut faire ça, oui, très honnêtement, c'est possible, bien entendu. Je veux dire que faut pas être naïf. Hein, il suffit qu'il donne des informations erronées sur, par exemple, que c'est pas son véhicule. Ouais, c'est possible. Je veux dire que c'est quand même des dispositifs qui sont utilisés aussi par les forces de l'ordre. Donc bon,
est-ce qu'il y a une limite de couverture de zone?
La limite, en fait, elle est tout simplement que il faut qu'il y ait un réseau GSM. On peut considérer qu'en Europe, il y a une couverture qui est plutôt pas mal.
Donc si j'équipe mon véhicule, eh ben, je peux le tracer à travers toute la France, toute l'Europe.
Ouais, absolument.
Et si à l'inverse, moi je veux délimiter une zone au-delà de laquelle je ne veux pas que le véhicule puisse aller, c'est possible?
Bah, en fait, oui, en principe, en théorie. Parce que on peut définir ce qu'on appelle des zones de sécurité ou geofencing sur tous les types de boîtiers, que ce soit directement au niveau du boîtier ou des plateformes, justement, des serveurs. Mais la législation française interdit ce qu'on appelle les coupures de moteur. Donc, bah, par exemple, très concrètement, nous, on le fait pas, on le propose pas.
Ah, mais c'est possible. On pourrait équiper.
C'est tout à fait possible, oui.
Donc, je délimite une zone, je vois que le véhicule la dépasse, je peux arrêter la voiture.
Exact.
À distance.
Mm-hmm. Absolument, oui. Une coupure moteur, oui, absolument.
Et vous dites théoriquement, donc, ça peut exister. Ça, c'est fait.
Oui, non, mais très clairement, avec Internet, vous pouvez trouver des boîtiers Made in China, Made in USA, qui proposent ça, absolument. Ce qu'on fait pas mal aussi, nous, c'est des balises pour la protection du travailleur isolé. C'est-à-dire qu'en fait, on a des balises qui sont spécialement dédiées à ça. C'est-à-dire qu'en clair, la personne est seule, elle travaille de nuit. Si jamais elle a un moment d'angoisse, de panique, elle a la possibilité d'appuyer sur un bouton qui va déclencher des appels vocaux et signaler sa position. Et dans le même temps, si elle a un malaise, si elle tombe, si elle ne peut plus bouger, on a le dispositif qui se met aussi en route sur ce qu'on appelle la position de l'homme mort et qui permet aussi la localisation. Et c'est donc quelque chose là qu'on dédie vraiment pour les travailleurs isolés. Donc là, on est quand même vraiment dans, pour moi, quelque chose, un vrai service qui est plus là du tout quelque chose qui est entre guillemets du flicage. C'est vraiment de la sécurité et de la sécurité active.
Ben, vous l'avez dit, on tourne autour de la question. Enfin, là, c'est un aspect évidemment très positif, intéressant. Sans langue de bois, quel est l'esprit des clients? Pourquoi on s'adresse à vous?
Si on reprend l'exemple d'une société, c'est encore une fois parce que ils ont des doutes sur l'utilisation des véhicules, des matériaux, etc. Ils veulent réduire ce doute. La plupart du temps, le simple fait de déclarer aux personnes que les véhicules sont équipés, ça réduit, mais automatiquement, il y a une automaticité dans la réduction.
Du 1er décembre 2007, Monsieur X franchit le seuil du hall de son immeuble du 36 rue Frédéric Lemaître. Le sujet porte une veste noire de taille moyenne, cheveux châtains, d'un pas pressé comme retard, marche vers le métropolitain. À 8h07, la caméra de surveillance numéro 9043 observe que Monsieur X s'est arrêté pour s'observer devant une glace sans teint d'une pharmacie localisée 34 rue Albert Schweitzer. À l'aide de son index droit, X semble vouloir effacer une tache située à l'interstice de ses lèvres et identifiée comme une bavure de dentifrice. Il y parvient et manifeste un air de satisfaction. Fermez les yeux. Le monde vous regarde. Fermez les yeux. Le monde vous regarde. À 15h06, l'après-midi du 1er décembre 2007, Mademoiselle S, munie d'un chien, est adossée à l'abribus de la station Maurice Bobin. Le sujet est une jeune femme, lunettes noires, d'ailleurs gris-brun, cheveux cachés par un foulard, elle est de type maghrébin. À 15h08, la caméra de surveillance numéro 13201 constate que Mademoiselle S tient sur sa hanche une canne blanche et feuillette dans le même temps les pages d'un ouvrage de type féminin. Soudainement, comme interpellé d'un brusque hochement de tête, le sujet semble saluer la caméra de surveillance numéro 16207, range son magazine, prend la rue Orfila et s'en va.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Alliomarie annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
Oui, bonjour, Patrick Haas, directeur d'Antoute Sécurité.
Patrick Haas, vous êtes le directeur de En Toute Sécurité, qui est une revue, un magazine et un atlas. Enfin, vous êtes expert de l'information économique.
Alors, en France, il y a à peu près 6 000 à 7 000 sociétés de sécurité privées. D'ailleurs, personne ne sait exactement combien il y en a, parce que en gros, il en meurt à peu près un millier par an, et il en naît un millier par an aussi. Donc, c'est un marché très fluctuant, où il y a beaucoup trop d'acteurs. Les experts estiment qu'il en faudrait 2-3 000 maximum en France pour qu'il y ait un marché, disons, assez serein ou sain.
Est-ce que l'on sait ce que représente, qu'est-ce que représente au niveau industriel le marché de la surveillance et de la sécurité aujourd'hui en France ou dans le monde ?
La sécurité est un marché assez hétéroclite, où on trouve des prestations aussi bien de gardiennage que de transport de fonds, que de sécurité électronique, que de sécurité incendie. Donc si on prend la totalité de ce marché, en France, c'est 18 milliards d'euros. Donc c'est un chiffre très conséquent qui est en gros le quart du marché de l'automobile en France, par exemple.
Alors là, on est dans les chiffres et concrètement, pratiquement, dans l'efficacité, dans le travail en lui-même de ces entreprises. Qu'est-ce que ça signifie, cette concurrence acharnée ?
Alors, ça veut dire que les sociétés de sécurité cherchent à réduire leurs coûts au maximum, qu'elles n'y arrivent pas toujours parce qu'il y a des contraintes administratives. Par exemple, on ne paye pas un agent de sécurité plus bas que le SMIC. Hein, enfin, on ne devrait pas, en tout cas légalement. Et justement, ça, la conséquence, c'est que de nombreuses sociétés de sécurité se livre à des pratiques illicites, c'est-à-dire du paiement au noir, non-déclaration d'heures, etc., etc.
Quel est le facteur déterminant qui pousse, qui encourage toujours à plus d'équipement? Est-ce que c'est le démarchage des entreprises? Quel est le facteur déterminant?
Alors non, ce n'est pas l'offre qui est très dynamique, c'est la demande. C'est-à-dire que les autorités, le monde politique, l'État, un discours de protection et ça se traduit par des investissements importants.
Alors justement, quelle garantie, ou plutôt comment sont décidés les contrats, comment sont décidés les achats d'équipements et quel type de garantie démocratique il y a sur justement l'achat ou la sous-traitance de cette surveillance, cette sécurité?
Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de garanties. C'est-à-dire qu'on achète, enfin l'État malheureusement achète de la sécurité privée comme il achète du papier ou des prestations de restauration collective. Alors que la sécurité, c'est quand même un domaine qui n'a rien à voir, qui est stratégique, qui est sensible et pour lequel il faut avoir effectivement des garanties. Et à mon sens, l'État est un mauvais client en matière de sécurité, puisqu'il fait très souvent appel au moins 10 ans, et non pas au mieux 10 ans, et donc il se tourne vers les sociétés les moins chères. Et les sociétés les moins chères, généralement, ne présentent pas toujours les garanties suffisantes en matière de moralité, de qualité de service. Alors, il y a des exemples, oui, de sociétés qui travaillaient pour l'État et qui ont fait faillite parce que les prix étaient beaucoup trop bas. Des faillites qui étaient quelquefois plus ou moins frauduleuses, d'ailleurs, parce que l'État fait quelquefois appel à des sociétés qui sont notoirement en marge de la légalité.
Est-ce qu'il y a une surenchère tout le temps quasi obligatoire à l'équipement aujourd'hui en surveillance et en sécurité?
Alors, oui, les motivations d'équipement, d'achat, sont très souvent irrationnelles pour la sécurité. C'est par exemple au lendemain d'un attentat. C'est par exemple aussi le lendemain d'un cambriolage pour un particulier. Donc les motivations sont de cet ordre-là et il semble effectivement obligatoire que un client s'équipe des derniers modèles, des derniers équipements avec les derniers cris de la technologie.
C'est ce qui explique en partie les 80% d'augmentation sur 10 ans de chiffre d'affaires global de la sécurité?
Tout à fait, oui. L'offre est très large et la demande s'est surtout portée sur la sécurité électronique ces 10 dernières années. Hein, c'est vraiment l'explosion du marché de la vidéosurveillance, de la télésurveillance, de la biométrie dans le contrôle d'accès, etc. Mais aussi du gardiennage, puisque par exemple au lendemain des attentats de septembre 2001 ou même de 1995 à Paris, il y a eu une vague de contrats signés pour protéger tout de suite les sites les plus menacés, disons.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une schizophrénie ambiante où d'un côté il y a un discours d'encouragement du risque, le risque pour conquérir de nouveaux marchés, pour se frotter à l'inconnu, c'est ce que prônent les entrepreneurs ou certains politiciens, et parallèlement ces mêmes entrepreneurs ou ces mêmes politiciens parlent d'un risque zéro. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude un petit peu schizophrène là-dedans entre risque et sécurité maximum?
L'État ne veut plus prendre le moindre risque politique avec ses citoyens. Donc, il réduit la liberté.
Claude-Marie Vadron.
La liberté d'entreprendre, c'est tout à fait autre chose. La liberté de vivre comme on l'entend, sans gêner les autres, par contre, ça gêne l'État politique, quel qu'il soit. On ne peut plus avoir de liberté dans ce système. Elle se restreint de jour en jour. qu'est-ce que ça peut bien foutre à la RATP de connaître mes déplacements dans Paris ? Alors, on utilise le prétexte de l'organisation sociale des transports, mais c'est faux. Comme on faisait avant, on pouvait déterminer quels étaient les voyageurs en les comptant au portillon. Eh bien, maintenant, on aurait besoin de mes traces par le pass Navigo. Non, ça n'est pas admissible parce que derrière les nécessités, derrière la soi-disant défense des honnêtes gens, de ceux qui n'ont rien à se reprocher, se profile un contrôle total de la population.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Sylvain Savolainen du 17 octobre 2007 pour l'émission « Là-bas, si j'y suis » de Daniel Mermet. Merci à tous et à toutes. À lire « La grande surveillance » de Claude-Marie Vadreau aux éditions du Seuil. D'autre part, nous vous signalons que le collectif de Montreuil organise un forum sur les migrations et les sans-papiers ce week-end, samedi et dimanche, à la Parole Errante, 9 rue François de Berg, à Montreuil, métro Croix de Chaveau. Toutes ces informations sont disponibles, bien sûr, sur le site de France Inter, à la rubrique « Émission, là-bas, si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Rémi Quincet et Aurélie Fortin. Réalisation Koy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Chef du répondeur, Agnès Le Bot. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.